En espagnol. Oui, une majorité de personnes. Et combien de personnes parlent l'anglais? Bien. Je crois qu'il y a plus de mains qui se sont levées, de personnes qui parlent en espagnol. Bien, je vais donc parler en espagnol. Bonjour Fatima, bienvenue. Donc, je vais faire cette modération en espagnol, mais vous pouvez profiter des services d'interprétation que nous offre l'ICANN. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer dans vos langues respectives, en espagnol, pour ceux qui parlent en espagnol, en anglais, en français. Merci à tous ceux qui sont là et merci aux membres du panel, des amis en premier lieu et ensuite des experts. Donc, des amis, c'est un grand plaisir de les avoir ici. Pourquoi pensons-nous que cet espace pouvait être intéressant? Beaucoup d'entre nous, soit experts ou enseignants universitaires dans ce domaine de connaissances. Et là, il y a un certain nombre d'activités qui tendent vers la formation liée à ICANN, la gouvernance Internet, l'ISOC, qui est le programme de nouvelle génération. Mais moi, en tant qu'enseignante universitaire, moi, j'enseigne les réseaux networking. Je crois que la principale difficulté, c'est d'intégrer les principales ressources critiques d'Internet aux travaux de l'IANA, de la CNIC, dans les contenus que moi, j'enseigne sur les réseaux. Donc, moi, à titre personnel, j'ai développé un certain nombre de matériaux que je souhaite transmettre dans les réunions ICANN. Mais étant donné nos expériences respectives, je voulais partager avec mes amis experts les autres idées visant à intégrer les contenus ICANN dans les cours dans nos universités. Parfois, les cours ne sont pas si souples que cela. Je ne sais pas si Hernan ou d'autres enseignants universitaires peuvent réagir là-dessus, mais je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre qu'on a dans les universités. Mais on a la possibilité, en tant qu'enseignant, d'améliorer le contenu en intégrant des exemples ou des matériaux. Et en profitant de la présence d'Alexandra, qui se trouve ici derrière moi, nous voulions réfléchir ensemble, et on pourrait poser la question à ICANN à un moment ou à un autre. Là, je me tourne vers Fatima, qui fait partie du programme de communication. Quel est le matériel d'ICANN qui existe pour pouvoir les intégrer dans nos cours, que ce soit des documents juridiques, de sciences sociales ou d'infrastructures? Bien, je vais un petit peu arrêter de parler. Ça m'est difficile, mais je suis habituée à beaucoup parler. Mais je vais arrêter de parler, vous présenter les experts, mes amis membres du panel. Et on a un intervenant très spécial, Monsieur Wolfgang Traswester, un ami qui vient d'être nommé membre du conseil d'administration de l'ICANN. Donc, nos félicitations. Et il doit se rendre à une réunion du conseil d'administration. Donc, vous avez un temps limité pour à nous consacrer. Mais merci de nous avoir rejoints ce matin. Vous êtes mon mentor, vous le savez. Merci beaucoup, Olga. Merci à tous d'être venus à cette réunion. Parce que je crois que cette réunion arrive à point nommé, s'asseoir ensemble et voir quelles sont les prochaines étapes. Toute l'histoire de l'ICANN et de ses liens avec le monde universitaire remonte à longtemps. Le premier sommet sur la société de l'information en 2003. Et en tant que membre de la communauté universitaire et académique, j'ai participé à ce groupe de travail. Et pour nous, ce qui a été intéressant, c'était de voir les représentants de de la communauté, venez nous voir pour nous demander où es-tu, faire des études sur la gouvernance Internet. Et à notre surprise, aucune université ne donnait ce type de cours et c'était compréhensible parce que la gouvernance Internet est un phénomène multidisciplinaire. Vous avez des législations, des activités commerciales, des mathématiques, des technologies, d'information, des discipline scientifique, donc c'est un phénomène multidisciplinaire. Mais les universités sont organisées de manière disciplinaire, en fonction des disciplines. Vous avez une fac de droit, une fac pour les politiques sociales. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire des études sur la gouvernance Internet, il faut que vous fassiez vos études dans 5-6 universités. Et ça, c'est vraiment problématique dans le système universitaire parce que tous les efforts multidisciplinaires entre universités sont toujours très difficiles à gérer. Tout le monde est pour, mais quand il s'agit de le mettre en pratique, les profs enseignent leur propre domaine de connaissances, les maths, les sciences ou autres. Donc, conclusion de ce petit groupe d'académiciens qui inclut Victoria, Alexandra Pesanti et tant d'autres, c'est que cela n'est pas proposé par le système universitaire et que donc il faut créer, nous, quelque chose. Donc on a constitué un groupe de travail en 2006 avec l'Association internationale sur les recherches dans le domaine de la communication. Ce groupe de travail a donné lieu à deux idées fondamentales. L'un, créer une plateforme indépendante pour la recherche et l'autre, développer des contenus scolaires pour la gouvernance Internet. Et ça, ça a été le point de départ de GigaNet, ce qu'on connaît aujourd'hui comme GigaNet, qui a près de 500 membres académiques de par le monde, qui organise un symposium annuel sur le huitième symposium a eu lieu très récemment en Malaisie. Et deuxième idée phare, c'est d'avoir un cours d'été sur la gouvernance Internet où on puisse réfléchir sur la nature multidisciplinaire et interdisciplinaire de l'Internet. Et on a eu un test en Allemagne, j'en ai fait partie, et on s'est rendu compte qu'il y a deux cours qui sont organisés dans le nord et dans le sud. Donc Olga a pris l'initiative et a constitué une école sur la gouvernance Internet et qui se rend d'un pays à l'autre et qui voyage énormément. Pour ce qui me concerne, je me félicite de voir que les pionniers de cela font partie maintenant de plusieurs organes ici, parce qu'on est en train d'enseigner et de former les leaders de demain, des gens qui, d'une façon ou d'une autre, participaient auparavant, mais le font maintenant à haut niveau. Le problème, c'est que tout cela ne concerne pas simplement la gouvernance Internet et l'ICANN, mais aussi les activités journalières des universités. Donc c'est un fossé qu'il faut combler. Et dans ce type de problème, il ne faut pas simplement se limiter à un petit groupe de personnes. Dans mon cas, il y a 25 ou 30 personnes. Tatiana a également fait partie de notre équipe. Donc toute une série d'experts de cette communauté qui donnent des cours pendant ces écoles d'été. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut se rendre dans les universités de par le monde et encourager les enseignants universitaires à faire le pas, à les intégrer dans ce champ multidisciplinaire, à tirer parti des contenu scolaire qu'on a développé. Si vous allez sur notre site, vous allez voir qu'il y a un système divisé en sections, sections universitaires, sections techniques. Donc on a différents modules comme la gestion des noms de domaines, dimension politique, d'une perspective régionale ou mondiale, histoire, culture, contexte. Donc, ça représente 50 ou 60 heures de cours. Et avec la nouvelle Académie ICANN, qui a été testée pour la première fois ici à Buenos Aires, c'est un excellent départ. Je crois que cette Académie représente un système modulaire qui fait que si vous proposez des choses concrètes, étant donné qu'il y a encore beaucoup de vide, on peut instaurer des réseaux beaucoup plus clairs et vigoureux entre l'ICANN et l'université. Voilà un petit peu le défi qui se pose à nous. On a obtenu beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à avancer. Merci beaucoup de votre présence, de votre intervention. Et vous pouvez maintenant vous rendre à votre prochaine réunion ou bien rester un petit peu avec nous. Je vous demande de bien vouloir applaudir le professeur. Vous êtes si nombreux, c'est difficile de présenter tous les membres du panel. Fatima a été notre étudiante à San Pablo. Et maintenant, elle a été sélectionnée pour le comité multipartite. Elle enseigne également à l'université. Elle est avocate. Donc voilà Fatima. On est très nombreux, donc peut-être que vous pouvez intervenir brièvement avant de donner la parole dans la salle, hein, parce que vous êtes très nombreux. Merci, Olga. Moi aussi, je vais essayer d'être brève et de ne pas parler beaucoup, et ça va me coûter aussi. Alors, je voulais vous faire part de mon expérience, vous raconter mon expérience en tant qu'élève dans le domaine de la gouvernance Internet et de mon expérience en tant qu'enseignante à l'université. J'ai participé, me semble-t-il, à tous les programmes de bourse qui existent, à l'ISOC Generation Leader, à l'école sur la gouvernance Internet, et je suis avocate. Et lorsque je suis rentrée dans ce monde, je ne comprenais pas parce que ma formation d'avocate ne nous prépare pas à participer à ce monde de la gouvernance Internet et en particulier de l'ICANN où il y a toute une conjugaison de thématiques juridiques et autres. Donc, notre participation était difficile. C'est pourquoi il me semble très important d'intégrer dans les contenus scolaires à l'université des questions liées à la gouvernance Internet. Je crois que le défi, c'est de savoir comment les inclure. À l'Université nationale de Córdoba, la fac de droit, on a participé au développement des contenus scolaires sur la gouvernance Internet. Je suis sûre que Carlos va en parler un peu plus en détail ensuite. Donc, on transmet ces connaissances aux étudiants en droit. Et c'est difficile également d'intégrer ces questions et de sensibiliser des juristes à cela. Mon expérience, moi qui ai participé comme enseignante à d'autres groupes, des cours pour hispanophones, etc., je m'aperçois que les étudiants n'ont pas les capacités suffisantes pour faire des recherches. Et sur ces questions qui sont en perpétuelle évolution, c'est difficile de faire un essai, un test où on peut exprimer ses propres idées, ses propres points de vue. C'est en tout cas un point de vue personnel et nous qui participons comme enseignants, on doit pouvoir développer ces capacités. Et très brièvement aussi, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux matériaux qui existent actuellement. Dans la stratégie de l'ICANN pour l'Amérique latine et les Caraïbes, je suis coprésidente du projet lié aux communications. À l'heure actuelle, on en est à l'étape de l'inventaire sur les matériaux qui existent et sur la façon dont nous pouvons les inclure pour les diffuser dans nos communautés en particulier sur un site web qui fait partie de notre projet, qui est destiné spécialement à la communauté de l'Amérique latine et des Caraïbes, dans toutes les langues, anglais, français, anglais, espagnol, pardon. Et à l'Acralo, on a lancé un projet de renforcement des capacités à l'issue de la réunion du Costa Rica, parce qu'on a justement identifié ce problème de renforcement des capacités pour permettre la participation. Et il me semble que cela pourrait être utile pour faire participer les autres, voir également comment l'articuler avec la plateforme en ligne d'apprentissage que l'ICANN est en train de développer. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Fatima. Lee, vous êtes le suivant. Alors, expert en droits de l'homme, il travaille pour le Conseil de l'Europe, n'est-ce pas? C'est vrai? Peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre expérience. Je crois personnellement que votre perspective est très intéressante. Vous êtes technicien, donc parfois il est difficile de voir les limites des technologies par rapport à la liberté d'expression, aux droits de l'homme. Et nous autres techniciens, en tout cas, c'est mon point de vue, on perd conscience de la façon dont cela peut fonctionner. On se concentre trop sur les technologies. Donc, vous, votre idée, c'est d'avoir cela présent à l'esprit lorsque vous enseignez les sciences sociales ou le droit. Vous avez la parole. Merci, Olga. Merci de l'invitation. Je suis Lee Herbraden du Conseil de l'Europe. Lee Hebert, pardon. Donc, je travaille dans le contexte européen et dans le contexte international. Et depuis 6 ans maintenant, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que veut dire l'Internet au regard des droits de l'homme. Donc, j'ai travaillé à la Cour européenne des droits de l'homme. Et chaque jour, je pense à la Convention des droits de l'homme, que représentent les droits de l'homme sur l'Internet et ce que cela veut dire pour les États, parce que ce sont les États qui protègent les droits de l'homme, qui vous les garantissent. Et comment le faire en ligne? Donc j'ai un fascicule ici rempli de normes, de textes développés et adoptés par les États membres au cours du temps. Et pour revenir un petit peu dans l'histoire, lorsque le sommet mondial s'est achevé à Tunis en 2005, beaucoup ont dit que c'était la fin des droits de l'homme, on n'en parlait plus. Passons à autre chose. Et depuis, le forum Internet a été créé et chaque année, ce que je vois, c'est que on ne parle que de droits d'homme. Ça fait partie de toutes les priorités. Et si vous voyez les débats qui ont lieu, vous verrez qu'il y a beaucoup de questions liées à la liberté d'expression, à la confidentialité, à la liberté de réunion, etc. Et jusqu'au dernier sommet à Berlin, on ne parlait que des droits de l'homme. Donc, il y a les révélations de Snowden, et là, il s'agit du droit à la dignité et à la confidentialité de chacun. Donc, du point de vue international et du point de vue des Nations Unies, il y a une résolution qui a été adoptée, qui stipule que les droits de l'homme s'appliquent en ligne et dans la vie réelle. On a eu le premier cas où la Turquie a été déclarée comme ayant violé la liberté d'expression parce que quelqu'un a eu son accès à tout son travail en ligne bloqué. Donc, c'est le premier cas où vous voyez que la Cour dit au pays « Vous êtes en train de violer ces droits. Donc, veuillez remédier à cette situation. » C'est un pas en avant très important. Et depuis, vous avez entendu parler des principes de la gouvernance Internet de par le monde. Il y existe beaucoup de principes. On en parle énormément. Et il y a un processus de conciliation. Je crois que la réunion au Brésil va nous permettre d'avancer dans ce domaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Décentralisation d'Internet, intégrité pour maintenir le trafic fluide sur Internet et bien d'autres choses. La gouvernance multipartite est très importante à cet égard. Et pour conclure, je dirais qu'on parle de liberté d'expression sur Internet. Et lorsque moi je pense à liberté d'expression dans la vie réelle, on pense également à la liberté des médias. Les médias doivent être libres pour vous garantir une liberté d'expression, pour que vous ayez accès à l'information et que vous preniez des décisions éclairées. Donc avec l'Internet, ce qui se profile à l'avenir, c'est que les médias font partie intégrante de cette dimension liberté d'expression, et je pense qu'on est en train d'avancer par rapport à cette liberté. Les moyens de communication doivent rester libres, et ça doit être lié de près à la liberté d'expression. Donc on sait qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a des choses à faire. Si vous commencez à voir Internet depuis plusieurs points de vue, vous allez avoir une incidence sur les droits de l'homme des gens. Et plus vous allez militer en faveur de cela, plus vous allez voir que la liberté de réunion, la liberté d'expression et de participer librement à votre démocratie va être encouragée et promue. Donc ce matériel existe. Et tout le monde aime parler des droits de l'homme, donc c'est un thème d'actualité vraiment.
Merci. Je crois qu'il y a également des sites web, des supports qui ont été mentionnés. Lee, également, si vous pouvez m'envoyer ces liens, je peux les rassembler et en faire part sur Facebook, Twitter, etc. Konstantinos, nous sommes très heureux de vous avoir ici présent, mon cher ami. Vous êtes expert en propriété intellectuelle, donc votre point de vue est le bienvenu. Merci. Donc, Daisok, merci à tous. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Konstantinos Komaitis et au cours de l'année passée, je travaille à la politique publique de l'Internet Society, la société de l'Internet. Avant ça, j'étais un universitaire, j'étais universitaire. Je travaillais à Glasgow. Je suis juriste de formation, avocat. Et donc, lorsque toute cette question de l'Internet a surgi, pour les avocats, la première question qu'ils se sont posées, c'est de savoir s'il nous fallait un nouveau régime ou si on pouvait transférer les principes existants dans le contexte de l'Internet en ce qui concerne les lois. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que cette question n'est toujours pas résolue après 30 ans et que les universitaires débattent toujours sur ce point. Mais une des choses qui est devenue évidente, c'est que l'Internet informe énormément de débats du point de vue juridique et la propriété intellectuelle en fait partie. En 2000, j'ai participé à un atelier sur la régulation, les politiques des noms de données et les listes de distribution. Et il y a eu la question du conflit des marques des noms de domaine pour les marques de commerce. Et j'ai fait partie de la discussion. À l'époque, il y avait 3 personnes qui écrivaient, qui publiaient des choses sur les noms de domaine, les conflits de marques de commerce. Il y a d'ailleurs Military Mule et Michael Falkingen et Michael Geist. Lorsque j'ai commencé, il n'y avait pratiquement personne qui connaissait ce qui se passait. Mais ce que l'on savait à l'époque, c'est que ce débat, cette discussion pouvait énormément nous apporter d'informations en termes de lois sur la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Et en fait, les droits d'auteur, c'est la même chose actuellement. La question de l'infraction aux droits d'auteur dans l'Internet génère énormément de discussions. Donc, j'essaie de vous donner un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. En ce qui concerne les discussions en elles-mêmes et à savoir s'il faut incorporer ICANN et d'autres institutions qui travaillent dans le domaine de l'Internet dans la vie académique, c'est une question importante parce que cela fait partie de qui nous sommes à l'Internet. C'est un petit peu, cela fait partie de notre vie et de toutes les études académiques. Il y a les étudiants qui vont à l'université connaissent déjà très bien l'Internet depuis très longtemps. Et je sais que lorsque les étudiants arrivent chez moi en tant qu'étudiant, moi, je leur dis, vous connaissez déjà l'Internet, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur les médias sociaux. Les questions de droit d'auteur, c'est là que vous allez pouvoir trouver du travail. Et ils s'y intéressent d'ailleurs. Et surtout en termes de propriété intellectuelle, je vais me concentrer sur la question d'ICANN parce que nous parlons d'ICANN. En 1999, ICANN trouvait une politique de règlement des litiges qui, bien sûr, a représenté la base de beaucoup des affaires juridiques. Et bien sûr, cela a permis de fournir énormément de réponses au niveau national et puis aussi en termes de juridiction, de compétences. Parce que cela, la question des compétences a créé énormément de problèmes, bien sûr, dans le cadre de l'Internet. Et puis, il y a ici la question de la compatibilité, de faire des hypothèses telles que les noms de domaine et les marques de commerce, c'est exactement la même chose. Par exemple, et comment peut-on... Le fait de simplement avoir une marque de commerce veut dire que vous devez avoir un nom de commerce. Je crois que beaucoup de personnes cherchent toujours à trouver des réponses à ces questions très difficiles. Et ces questions vont être la base de beaucoup de discussions à l'avenir. Merci. Alors, est-ce que vous êtes prêt à nous faire part de vos supports pour que je puisse les faire passer? J'ai dit que j'allais parler en espagnol, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. Merci, Constantinos. Merci, Lee. Herman Galperon est chercheur et enseignant également, c'est bien ça. J'ai rencontré Herman lorsque je travaillais à DataC. C'est quelqu'un de très intéressant. Herman a écrit énormément d'articles sur les lacunes numériques, sur la technologie IT, et j'ai lu énormément d'études qui ont été faites par les chercheurs sur la technologie et les personnes ayant de bas revenus. Et je me souviens qu'avant la réunion de Dubaï, j'ai pu discuter avec lui des sujets. Merci, Olga. Amangal Perin, mes réflexions proviennent de mon expérience en Argentine et aux États-Unis et en ce qui concerne le domaine universitaire. Je crois que le professeur a très bien présenté les défis que nous avons à l'avenir. Le fait est que la difficulté est multidisciplinaire et donc il est très difficile de séparer les différentes questions. Et donc, sur la base de mon expérience, cela fait 10 ans que j'enseigne aux États-Unis ainsi qu'en Argentine. Pourquoi est-ce que la situation est plus difficile pour nous en Argentine? Et je crois que ça s'applique à la totalité de l'Amérique latine. Je ne sais pas pour ce qui est des autres pays, mais je crois que cela s'applique à l'Amérique latine. C'est là le problème. Le problème, c'est qu'il est très difficile de faire un travail multidisciplinaire. Premièrement, parce que les universités publiques ont énormément d'écoles. Donc, par exemple, l'école d'ingénierie, l'école de sciences économiques, sont souvent font un travail très séparé et elle ne se réunit pas forcément lors de réunions pour faire des présentations communes. Et ceci me surprend énormément. Lorsque j'ai commencé à Stanford, que j'ai dit à USC en Californie, qu'il fallait qu'il y ait des liens entre les différentes disciplines se fassent, eh bien, ceci s'est fait. Mais ceci ne se produit pas dans les universités plus importantes avec des milliers d'étudiants. Donc, il est très difficile de travailler de manière multidisciplinaire. D'un autre côté, il y a le phénomène des universités privées qui sont spécialisées et qui n'enseignent que l'ingénierie, par exemple, ou qui n'enseignent que la gestion ou les affaires ou les études sociales. Et puis également, dans mon université, par exemple, nous avons très peu de contacts. Et cette situation de la spécialisation veut dire que on est obligé de travailler de manière compartimentalisée. Et le monde anglo-saxon est organisé de façon à ce que les gens choisissent les études qu'ils vont faire, mais ils peuvent aussi rajouter certains cours en plus. Et donc, voilà où les liens sont faits. Et en Amérique latine, en Europe, le système ne permet pas cette pluralité. Donc, on décide au début de faire des études informatiques ou autres. Et donc, sortir de ce système pour les étudiants est difficile. Les opportunités sont rares en ce qui concerne les études pluridisciplinaires. En Amérique latine, nous avons des cours de niveau master ou de deuxième cycle dans le domaine de la science politique, par exemple, ou un doctorat en sciences politiques. J'ai au moins deux étudiants qui étudient la gouvernance. Ils étudient tout ce qui a trait aux partis politiques, à la représentation, à la situation sociale des enfants. Donc, en fait, les doctorats sont trop larges. Au niveau des maîtrises et des doctorats, il y a des spécialisations où on peut étudier la télécommunication et les questions juridiques de manière concrète en lien avec la gouvernance de l'Internet et l'ICANN. D'un autre côté, il y a des systèmes éducatifs qui ne sont pas nécessairement souples en Amérique latine. Il faut demander la permission au ministre. Cela peut être approuvé et à ce moment-là, vous pouvez choisir. Ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait des changements dans le cursus, eh bien, c'est difficile parce que cela demande des approbations parce que les programmes sont centralisés. Dans le cas du juridique, nous avons des certificats qui vous permettent de travailler en tant que professionnel. Donc, ceci nécessite des caractéristiques minimum. Je pourrais continuer là-dessus, mais le diagnostic que nous a fait le professeur est en fait, à mon avis, plus problématique en Argentine et en Amérique latine. Donc, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour essayer de s'occuper de ces enjeux en termes des études sur la gouvernance de l'Internet? Je crois qu'il y a deux choses. Premièrement, de se dire que le système est très rigide. Je crois que Olga a eu une bonne initiative pour ce qui est de l'école sur la gouvernance de l'Internet. Et elle le fait en dehors du système traditionnel des universités. GIGANET est un autre exemple où on a une nouvelle association d'études qui a été fondée en dehors du système traditionnel. Je pense que ce sont de bonnes choses. Et la lutte doit se poursuivre au niveau des universités parce que c'est là que sont les étudiants, c'est là qu'est le financement. Il existe des règles liées au système traditionnel. Je pense que les expériences hors du système traditionnel sont de bonnes choses, mais il faut continuer de pousser dans les universités. J'ai fondé un institut, je m'occupe des politiques et des lois sur la technologie de l'information. Et finalement, il y a des synergies qui peuvent être utiles. Et travailler, collaborer est important. Merci Olga, merci pour cette excellente description que tu as faite du système universitaire en Argentine. Il est tout à fait vrai qu'il n'y a pas énormément de liens entre les collègues, à moins que nous ayons des amis. Nous avons maintenant Olga Gavali qui va parler de Red Clara. Et j'ai une collègue qui est présente. Donc, il s'agit d'un système de mise en lien, d'un network entre les universités. Moi, je pense que c'est quelque chose que nous n'avons pas ici. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Dites-nous un petit peu qui vous êtes et d'où vous venez. J'aimerais vous remercier parce que je suis nouvelle. Pardon, je suis nouveau. Et je suis surpris de voir autant de personnes ici présentes. Et ce qui m'intéresse, c'est le monde académique. Je m'appelle Pablo Carvalho. Je suis un des directeurs de Red Clara, le consortium d'Amérique latine pour les études avancées. Il se compose de 12 pays en Amérique latine. C'est un réseau scientifique pour le trafic de l'information. Et nous soutenons la recherche dans les pays par le biais de différentes infrastructures. Par exemple, les sciences informatiques, la vidéoconférence. Et il existe différentes initiatives pour ce qui est de la technologie, etc. Je viens du réseau équatorien et donc je suis nouveau. Cela fait 6 ans que je travaille au conseil d'administration de ce réseau et je suis également directeur pour Red Clara. Pour ce qui est de mon passé, je viens du domaine de l'ingénierie et depuis 2000, j'ai fait un doctorat à l'Université de Catalogne. Et j'ai eu l'opportunité de participer à certains problèmes dans le domaine de la télématique et j'ai une maîtrise sur les services et les réseaux basés sur l'inclusion. Ce qui m'a surpris lorsque j'ai participé à ces événements, c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a pas énormément de personnes qui connaissent ICANN. Par exemple, je suis un des membres qui ne sait pas d'où viennent les nombres à Cannes. Pendant très longtemps, j'ai travaillé en lien avec le secteur des télécommunications et j'ai eu l'occasion de travailler dans des sociétés qui fournissent des services de télécommunications. Avec cette expérience, je suis également surpris de voir le très bas niveau d'implication que j'ai eu en tant que participant dans le secteur. Du point de vue des réglementations, j'étais impliquée, mais je n'étais pas impliquée dans la gouvernance au niveau international. Donc, lorsqu'on prend en compte toutes ces informations, pour moi, il était tout à fait naturel qu'il y ait une différence, une lacune entre l'industrie et les universitaires en termes de but puisque les universités, c'est surtout la recherche pure. Et de l'autre côté, il y a un lien entre les connaissances et les nouvelles techniques. Ceci étant, pendant cette réunion, je me suis rendu compte qu'il existe une différence, qu'il y a une dichotomie parmi les organisations, les gouvernements. J'ai rencontré beaucoup de représentants politiques, de fournisseurs de services et beaucoup de personnes qui viennent du domaine universitaire, mais ce n'est pas le fait qu'ils soient professeurs, mais c'est le fait qu'ils soient en lien avec certains réseaux, certaines organisations qui sont liées à ICANN. Et donc, je crois qu'il existe une autre différence entre les académiques et les organisations. Ce que je peux dire du point de vue de mon expérience, c'est que ce que nous faisons en tant que professeurs, c'est que nous mentionnons les normes, les organes gouvernementaux, mais nous ne sommes pas impliqués dans les activités, les données, les politiques qui sont générées au niveau gouvernemental. Et donc, je crois qu'il y a un besoin, et par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, donc je leur ai dit, il y a un besoin d'ouvrir cet espace auprès des universitaires, et je vous le dis parce que vous êtes ouverts aux suggestions pour l'avenir. Je crois que ce genre de sessions que nous avons maintenant sont très utiles et qu'on pourrait y inclure des sujets plus spécifiques, plus détaillés, mais je crois que c'est quelque chose qui doit être refait à ICANN. Non seulement la conversation que nous avons maintenant, mais d'une manière plus large, on peut penser à des forums académiques avec des séances où on puisse introduire des sujets académiques liés au travail d'ICANN. Donc, je crois que l'espace est ouvert. J'espère pouvoir participer à l'avenir lorsque je m'appliquerai davantage en termes de gouvernance. Et j'espère pouvoir apporter une contribution plus importante. Je peux vous donner une présentation générale en tant que personne venant de l'extérieur, en tant que nouveau. Moi, ce que je propose, Olga, c'est qu'on peut continuer de débattre au sein de ce forum avec une focalisation davantage académique pour avoir davantage de participation. Olga au micro. C'est très intéressant ce que vous dites parce que je n'avais jamais pensé à créer un espace. Et je regarde Alexandra là. Alexandra, pardon. Je n'avais jamais pensé à un espace qui puisse permettre de présenter des documents académiques. Et je crois que c'est une idée qui est excellente. Pour moi, je suis toujours nouvelle à ICANN parce que je rencontre de nouvelles personnes, il y a de nouvelles initiatives, c'est vraiment un écosystème qui est en cours de développement. Donc, n'ayez pas le sentiment d'être seul. Merci beaucoup pour votre participation. Fernando Gand est un ingénieur très connu, mais je le connais parce que c'est le seul Argentin, je ne sais pas si je suis sûre de ça, mais en tout cas qui participe de manière active à la liste ETF. Je participe à la liste, mais je lis simplement les informations. Je suis cette liste et je vois qu'il y a l'intention d'avoir une réunion ETF en Argentine. Je parle à beaucoup de personnes à la CNIC, à l'IANA, à ICANN. Et j'ai toujours exprimé le fait que ce pays convient tout à fait pour ce type de réunion. Et on me dit tout le temps la même chose. Nous avons besoin qu'il y ait des personnes qui soient intéressées par ce sujet. Vous avez été très impliquée dans cette question. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que vous avez à dire là-dessus, sur votre expérience par rapport à l'ITF. Bonjour à tous. Je pensais qu'il fallait qu'on se focalise sur des questions techniques et pour me présenter, je travaille dans le domaine technique et donc les commentaires que je vais faire au cours de cet atelier auront trait aux questions techniques.
Je vais parler des aspects politiques. Mais je n'en suis pas conscient. Je ne connais pas les aspects politiques. Christine devrait le savoir. Non, j'ai pris des notes. Rappelez-vous que vous avez de l'interprétariat. Christina au micro. Je ne sais pas comment les interprètes vont pouvoir traduire vos notes. Quand il s'agit de l'inclusion du contenu de ICANN au niveau de l'université, au niveau universitaire, je pense toujours, je me demande toujours si on pourrait inclure ce contenu, et c'est mon idée à moi, ou si les universités devraient focaliser sur les principes et non sur l'entomologie. Et c'est une application pratique. Lorsque nous voyons, il y a des cas où la technologie est enseignée à l'université. Ils enseignent la technologie courante comme si c'était la meilleure des choses. Ils ne focalisent pas forcément sur les normes, sur les standards, parce que souvent la technologie, c'est pas la chose la plus importante. Il faut donc se focaliser sur les politiques. Donc le problème avec ça, c'est que lorsque gens rentrent dans les réseaux, ils pensent que ce que nous avons, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Et souvent, c'est pas la bonne idée. C'est pas vrai. Donc, nous avons énormément de choses. Nous avons beaucoup de technologies qui sont mises en application. Mais il faut prendre en compte ce que l'on sait maintenant. Et on peut pas commencer. Si on pouvait recommencer à zéro, les choses seraient différentes. Donc, de façon à avoir cette vue d'ensemble, les principes doivent être très clairs dès le départ. J'ai pris des cours, moi, où je peux avoir des TCP, parler des TCP et d'autres contextes techniques qui sont donnés. Et Olga, au micro. Ah, j'aimerais savoir à ce sujet, Christian. Que puis-je vous dire? Quoi d'autre puis-je vous dire? Et aussi, il y a des choses que nous pouvons développer quand il s'agit de l'engagement. Souvent, c'est intéressant de participer à l'ITF, mais pour pouvoir participer à l'ITF, il faut avoir des connaissances sur la technologie courante. Et encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez prendre en compte ou si vous voulez débattre sur les technologies, là, vous ne faites plus attention aux principes parce que nous focalisons sur les principes que nous devons étudier, mais vraiment en termes de protocole, tout cela n'est pas lié aux principes ou aux règlements. Il serait donc plus intéressant de voir plus de gens inclus à l'ITF, engagés dans l'ITF. Mais je ne sais pas si ce serait faisable d'avoir des étudiants, des universités qui viendraient à ce genre de groupe ou groupe de travail. En ce qui concerne votre question sur les réunions en Amérique latine, si je devais vous donner une réponse politique, en fait, je n'ai pas de réponse. Des fois, l'argument, surtout les pays en voie de développement, l'argument est que nos réunions ne peuvent pas se prendre place en Amérique latine parce que le coût serait très haut. Ce serait donc très 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 cher pour les gens de venir, de se déplacer en Amérique latine. Donc, on doit se dire pourquoi est-ce que vous pensez que les gens en voie de développement ou en Amérique latine où il y a beaucoup de problèmes, souvent même au niveau local, et où les choses sont difficiles, comment peuvent-ils faire pour aller dans d'autres pays ou même sur voir d'autres continents? En tant que participant, souvent, c'est donc impossible. Donc, ceux qui prennent les décisions sont intéressés sur les résultats, alors c'est un problème. Nous aimerions avoir plus de participation au niveau de l'Amérique latine pour avoir des réunions ailleurs, mais comment est-ce qu'on va engager ces gens-là à le faire? Il y a donc une autre réalité. Il y a des mécanismes de participation autres que des listes de contacts, de courriels. On pourrait utiliser ces outils de meilleure façon. Et ce n'est pas forcément une bonne raison pour ne pas participer. En fait, c'était mon cas. Je participe à l'ITF depuis 2 ans et il y avait un membre d'un autre pays qui présentait mon rapport, mon papier. Je ne pouvais pas voyager. J'étais au chômage. Je ne pouvais pas aller rencontrer cette personne. J'ai ici avec moi et j'ai par exemple ici avec moi un ordinateur et je vois des questions, a dit Alga. Est-ce que vous allez à toutes les réunions ITF? Parce que pour les participants d'Amérique latine, souvent ces réunions se tiennent très loin et c'est difficile. Quand je sais que il n'y avait aucune réunion dans l'hémisphère sud, par exemple. Donc souvent c'est difficile. Christiane, au micro. Oui, j'étais à la dernière réunion. Oui, en fait. Et pour mon expérience personnelle, je suis donc allée au Canada. C'était ma première réunion. Et j'étais dans une auberge, disons. Et j'ai appris à propos de cette réunion, de cette ville. Donc, il a plu tout le temps que j'étais là-bas. J'ai quand même rencontré d'autres personnes d'Argentine, d'autres Argentins, pas seulement dans l'ITF, mais dans d'autres réunions. Donc, les gens qui viennent d'ailleurs... Pour eux, les possibilités de faire pour ces gens-là, il n'est pas toujours facile de s'adapter à d'autres situations. Donc, vous avez donc d'autres choix. Olga, au micro, merci. Maintenant, nous avons notre amie de l'université du réseau universitaire, Maria et Michel. Ils performent des ils font beaucoup de choses au niveau des IPv6, du outreach, de la communication. Ils offrent même des conférences très intéressantes. Et nous aimerions savoir, Mariella et Guillermo, quel est votre point de vue en ce qui concerne cette histoire, cette question universitaire, parce que vous êtes très concernés. Guillermo, micro. Merci à Olga pour votre invitation. Je vais parler le manque d'informations sur ce sujet au niveau universitaire, surtout lorsqu'on parle de l'ingénierie ou des diplômes techniques. Les sujets les plus techniques sont mentionnés dans les cours universitaires, mais pas forcément avec... Ils sont pas assez approfondis et pas avec des cours assez longs. Les mises à jour... Non. Les cours sur l'Internet parlent un peu de l'IPv6, mais surtout vers la fin, et avec des informations dispersées. Et encore aujourd'hui, des exemples sont donnés avec des cours sur les networks, sur les IPv4, alors que maintenant, on devrait parler de l'IPv6, au moins au même niveau que les IPv4. Je vais essayer de prendre espagnol.
Donc, on voit les dernières nouveautés par rapport au DNSSEC. Il en va de même pour les questions qui sont liées à l'IPv6 dans le DNS. On le voit dans les parties de l'IPv6. Donc, tout cela, ça nous montre que toutes ces questions sont encore à un stade où on s'aperçoit que les enseignants qui donnent des cours dans ces matières ne les ont pas bien assimilées. Si il est vrai qu'on a également des matières optionnelles, facultatives, où on peut faire une introduction plus détaillée sur ces questions. De mon point de vue, le problème, c'est que les enseignants ne participent pas à ces questions, ne participent pas à ces forums et n'ont pas suffisamment d'informations, ne serait-ce que des connaissances dans certains cas, suffisantes sur l'écosystème d'Internet, pour ainsi dire. Donc, je crois que l'une des choses qu'il faudrait faire pour diffuser ces questions, et je ne crois pas que ça soit difficile de les introduire à l'université, parce qu'il y a une liberté par rapport aux enseignants pour les intégrer, voire dans les matières facultatives. Mais les intégrer dans les matières obligatoires, c'est peut-être plus difficile. Ce qui manque, en fait, c'est des informations, c'est de la formation à l'adresse des enseignants. Donc, comme je le disais, il faut élaborer plus de matériaux, plus de bibliographies. Je le disais, il y a beaucoup de documents sur Internet, mais peut-être que ce n'est pas si facile de les trouver, on n'est pas habitué à les chercher. Et donc, je crois qu'il serait bon de constituer une base de connaissances, surtout sur des matériaux qui existent et qui ont été publiés. On a eu de nombreuses initiatives, par exemple, faire un livre pour diffuser l'IPv6. Mais je crois qu'il faut se concentrer beaucoup là-dessus, la formation des enseignants. Et nous, à travers l'ARIO, nous avons eu des initiatives pour diffuser de manière plus passive toutes ces questions, au moins en Argentine. Mais voilà un petit peu mon point de vue. Merci de m'avoir rappelé le chapitre Internet Society de l'Argentine qui a publié un livre, l'IPv6 pour tous, dans plusieurs langues, y compris le basque, l'espagnol, le portugais, etc. Et nous sommes sur le point de lancer la deuxième version de cet ouvrage, IPv6 pour tous. Et Marielle a collaboré, tout comme Christiane. Marielle, comment va ton bébé? Très bien. Elle est petite encore. Petit à petit, j'ai repris mes activités. Là, c'est ma première réunion après mon retour de congé maternité. Merci d'avoir posé la question. Moi aussi, j'ai fait une sorte de projet pour vous faire part un petit peu de l'idée de ma participation à ce panel. Avant de vous donner mon point de vue, je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Guillermo que, bien entendu, que par rapport aux connaissances qu'on a sur le fonctionnement des universités, on sait, et c'est un lieu commun un petit peu, que dans beaucoup d'universités, on arrive à faire en sorte que ces thématiques, par exemple ICANN, fassent partie intégrante des contenus scolaires. Et de fait, lorsque moi, j'ai fait mes études, et ça remonte à un moment maintenant, plutôt que de parler d'IPv6, on parlait d'IPGN pour IP Next Generation, donc la génération suivante d'IP. Et avec la même quantité de réseau, on a eu IPv6 grâce à une initiative du professeur que j'avais à l'époque. Il y avait un espace intitulé « Travaux sur Internet » et c'est là qu'on a vu pour la première fois des adresses IP, que ce soit sous version IPv4 et IPGN, comme on l'appelait à l'époque. Et l'ouvrage qu'on consultait à l'époque avait une section à part consacrée à l'IPGN. Et là, je vous parle d'une époque qui remonte à 10 ans maintenant. Donc, ce sont des idées générales qui sont proposées dans cet ouvrage. Et je sais qu'il y a des gens de l'université, du monde académique dans la salle. Donc, je pense que ce qui est important ici, c'est de pouvoir intégrer ces contenus dans les contenus scolaires de l'université. Nous sommes en train de faire partie d'une association, association des réseaux d'interconnexion universitaire. Nous ne sommes pas une entité éducative en soi, mais nous les regroupons. Que faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui est à notre portée pour que tout ce qui touche au thème d'intérêt pour l'ICANN puisse parvenir jusqu'aux universités? Moi, j'aimerais diviser cela en deux parties. D'abord, qu'est-ce qu'on fait du côté des contenus? Et de l'autre, quelles sont nos méthodes de travail pour que ces contenus arrivent aux universités? Lorsque je me réfère aux contenus, je parle de deux types de contenus, les contenus techniques et les contenus qui ne sont pas tant techniques, mais qui tiennent à la gouvernance, qui tiennent aux activités, à des forats comme l'IETF, l'école sur la gouvernance Internet, l'IGF également. Et lorsque je me réfère au contenu technique, je me réfère à l'IPDNS, IPv6, etc. Donc, que faisons-nous pour que tous ces contenus arrivent aux universités? On utilise deux canaux. D'un côté, les formations, les séminaires, et de l'autre, on travaille comme organe d'articulation. Je vous le disais, à travers des formations et séminaires, et ce, dans deux domaines. D'un côté, avec les techniciens du réseau, étant donné que les universités sont toutes reliées les unes aux autres par l'intermédiaire d'un réseau privé. En d'autres termes, les universités n'ont pas besoin d'Internet pour être liées les uns aux autres. Elles ont un réseau privé particulier. Donc, à travers ce réseau, on essaie chaque année d'organiser des événements où, d'un côté, on aborde des questions techniques que je vous mentionnais à l'instant, et de l'autre, on essaie à chacune des réunions de faire participer des personnes qui proviennent de ces domaines de conventions et d'accords de l'ICANN. Par exemple, une réunion en 2010, me semble-t-il, où on a parlé de la gouvernance de l'Internet. Christian est venu pour nous parler de l'ISOC. On a parlé de l'IETF également, pour essayer un petit peu d'encourager les techniciens universitaires à commencer à participer à l'IETF. Tout cela pour ce qui concerne les gens qui participent au réseau. Maintenant, la situation est la suivante. Nombre d'entre eux sont des élèves aussi. Ils donnent des cours à l'université. Et en parallèle, il y a d'autres types de séminaires et de formations qu'on organise finalement pas nous, mais on nous invite à y participer. Et en fin de compte, ce sont des initiatives prises par des directeurs de centres informatiques dans les universités, des professeurs dans des disciplines connexes. On a organisé un cours sur la gouvernance Internet à l'Université du Littoral à Santa Fe avec des enseignants en dernière année fac d'ingénierie est ouverte à tous les étudiants. Donc ce sont ce type de réunions qui sont très bien accueillies parce que pour la première fois, les élèves peuvent avoir une idée de la façon dont Internet fonctionne et est organisé. Et pour conclure un petit peu mon intervention, vous dire simplement que en tant qu'organe d'articulation, on essaie de faire en sorte que lorsqu'un enseignant souhaite participer à ce type de discussion, on essaie de le mettre en contact avec une personne qui travaille dans ce domaine. Par exemple, on a mis en contact des professeurs de l'université de Rosario avec des gens de l'ISOC pour introduire et intégrer toutes ces questions dans les contenus universitaire et dans les disciplines enseignées. Enfin, je voulais vous dire que notre réseau tente d'être un espace où on peut passer en revue tout ce type de formation, on peut apporter toute l'aide nécessaire pour continuer à amener la connaissance sur la gouvernance Internet, les aspects techniques et autres, jusqu'aux universités de la meilleure façon possible. question, Mariela. Combien d'universités participent à ce réseau? À l'heure actuelle, 49 universités, soit l'ensemble des universités du pays. Combien d'universités donc participent au réseau Clara, Red Clara? Réponse. En réalité, c'est la même chose, hein, l'ensemble des universités aussi, parce que les deux réseaux sont liés. À partir de notre réseau, on a accès à Red Clara. C'est un lien direct, en fait, hein, d'un réseau à l'autre. Donc, le réseau Red Clara regroupe toutes les universités. Toi, tu es en contact avec toutes les universités. Et vous autres également, avec toutes les... Vous êtes le point névralgique, finalement, pour établir le point de contact ici en Argentine. Merci. Christian Flaherty.
Christian, c'est un ami, il est argentin et il travaille à la Internet Society sur l'aspect technique. Christian, donc prends la parole. À toi la parole. Christian, merci pour l'introduction, Olga. C'est un petit peu difficile de partir à la fin des choses importantes. Et voilà, je t'ai gardé pour la fin. Donc, oui, non. Olga, oui, vous êtes mes trois étoiles. Christian, je voudrais pas répéter ce qui a été dit. Je voudrais, il me reste peu de temps. Je voudrais être bref et original dans mon discours. Ce que je vais proposer, c'est tout a été très bien couvert sur le contenu, ce qu'on fait dans l'université. Je vais essayer de parler un peu de l'écosystème des universités. L'université, c'est le départ de tout. C'est tout ce qui est nécessaire pour que l'Internet ait commencé à fonctionner. Ça a démarré avec l'université. C'est pas seulement une question technique. Mais de toutes les manières, que ce soit du côté financier ou autre, ça a commencé par l'université, cela, bien petit à petit, s'est élargi à toute la communauté. Et puis ainsi s'est créé ce modèle. Donc chez nous en particulier, il y a eu moins de développement, surtout dans les années 90. L'Internet a commencé à fonctionner dans les pays, surtout à cause des universités. Tout passait par l'université. Toutes les opérations, le financement, tout, sans discussion, tout passait par l'université. Donc, il n'y avait pas assez de participation dans cet écosystème, surtout dans cette région où il y avait moins de développement. Quand quelqu'un va dans une réunion de l'ITF, il y a plus participation des pays qui sont plus développés, ça ne se passe pas comme ça, certainement par chez nous, en Amérique latine. Comment est-ce que nous pourrions-nous prendre un rôle plus pertinent que pour nos universités qui soient... Bien sûr, de façon, les thèmes de l'Internet devraient rentrer dans les cursus universitaires. Je vais passer à une proposition directement, une proposition que nous pourrions débattre. Cela a à voir avec la nécessité que pour les gouvernements, quand ils ont besoin de quelque chose, appellent toujours leurs amis à l'université. Les gens se connaissent, les gens se parlent. C'est une des relations entre université et gouvernement, c'est quand les gens se connaissent. Et ce qu'on font les gouvernements et les universités, le lien entre les deux pourrait être très bon pour nous. Donc, il y aura donc de meilleures reconnaissances vis-à-vis du gouvernement pour les universités. Il y a aussi les forats des régulateurs qui regroupent tous les régulateurs de tous les pays. Ces régulateurs, en tant que représentants de gouvernement, ont des contacts avec les universités. Moi, je suis à la réunion de CGTEL. Les universités participaient de façon très très participaient beaucoup sur les thèmes de réglementation. il est bien que les universités soient bienvenues. Ce qu'elle devrait faire, c'est de prendre ce rôle et collaborer avec le gouvernement de façon régionale, de plus formellement et plus activement. Et ça a à voir avec le NIETE-FE, la participation Amérique latine des pays dans le NTF. La partie académique de sa région, de cette région, est minimum. Il n'y a pas assez d'efforts personnels. Et aussi des institutions pour participer. Il n'y a même pas une aide de l'université pour que les enquêteurs, les professeurs, les chercheurs, et surtout pas les étudiants, puissent participer. Il n'y a pas non plus de promotion entre de la part des universités sur ce sujet, comme disait Fernando. Des fois, cette discussion ne se passe même pas vis-à-vis des étudiants. Les étudiants sont toujours... ne sont pas informés des thèmes, de tels thèmes. Malgré tout, les professeurs, les chercheurs, les universitaires devraient participer et apporter pas seulement des choses, des idées, des choses concrètes à la discussion. De ce fait, c'est plus une question, une nécessité que doit la nécessité de la communauté. Les universités devraient participer à ces discussions. Le IETF et la communauté technique devraient en bénéficier. Il pourrait donc y avoir de nouveaux groupes qui auraient de nouvelles représentations, qui n'ont pas encore de représentation. Des nouvelles choses pourraient être présentées. Il y a des discussions à l'IETF au niveau sur les universités. Les gens devraient toujours parler de la même chose. L'IETF essaye d'ouvrir la discussion de nouveaux groupes. Je pense que les universités ont un rôle important dans ces efforts pour donc élargir la diversité, disons. Donc, la relation entre les universités et ACAN. La première chose que l'on devrait faire, c'est de mettre en place des objectifs pour faire face à ces questions. Il y a des groupes qui travaillent déjà, les régulateurs, les gens qui travaillent pour IETF. Mais en addition de ces efforts, nous devrions tirer profit des choses que l'on connaît déjà. Ces efforts sont en cours d'ailleurs, et nous essayons d'améliorer cela. En particulier, il y a beaucoup de domaines où les universités sont bienvenues de participer, et il est facile de participer, surtout avec l'ACNIC, où il y a de bons programmes pour que les universités puissent s'engager. Il y a des choses dans ces discussions, dans ces réunions, qui sont très intéressantes pour les universités. Ce serait donc très bon d'avoir une meilleure participation d'entre eux. Et ce serait très utile aussi pour elles d'en tirer profit. J'ai parlé de Red Clara, du gouvernement. Red Clara est un mécanisme très simple pour les universités, pour les organisations, pour coordonner. Et toutes ces organisations sont très proches de Red Clara. Pour toutes les organisations telles que l'ACNIC, ISOC, toutes ces organisations que nous essayons de soutenir avec les universités. Comme je l'ai dit au début, l'Internet était donc géré par les universités. C'est pas forcément le cas maintenant. Il y a quand même beaucoup de connaissances des universités. Il y a des réseaux universitaires qui sont aussi complexes que les autres networks, les autres réseaux. Tout le monde devrait faire partie des réseaux. Il y a des communautés dans les régions, dans l'Amérique latine et aux Caraïbes. Et aussi de nouveaux groupes qui commencent à émerger. Il y en a un très actif au Brésil, il y en a un nouveau au Chili, un autre en Argentine. Des groupes d'opérateurs qui commencent à émerger. Dans chaque pays, il y a des réseaux, des groupes. Et ce sont dans ces groupes où les universités devraient avoir des rôles en tant que collaborateurs. Et aussi des parties qui pourraient bénéficier de ces discussions. Et il est il y a donc beaucoup de problèmes malgré tout. De programmes, pardon. Il y a des programmes où les universités pourraient participer. Il serait bon d'avoir, par exemple, des sites pour trouver des bourses pour aller au IETF, pour aller aux réunions. Il y a de la formation, des plateformes d'enseignement. Il y a des tas d'outils sur l'Internet Society. Vous êtes tous bienvenus à utiliser ces outils. Olga, je voulais faire un commentaire, mais je me souviens plus. Marília, est-ce que vous allez parler en portugais? Nous avons de la traduction. Bienvenue.
Je préfère parler en anglais parce que j'ai parlé anglais et j'ai entendu de l'anglais toute la semaine, donc ça va être difficile de passer à une autre langue. Alors, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Marília Marciel. Je suis coordinatrice du Centre sur la Société de l'Information, l'un des 4 centres de recherche de l'École de droit FGV de Rio au Brésil. Alors, je suis ici soutenue et grâce au soutien du programme de boursiers, ce qui montre bien l'importance du programme des boursiers qui permet d'écouter de nouvelles voix et de faire participer les universitaires et le monde académique. C'est très important. Mais j'aimerais faire 2 commentaires sur le rôle du monde académique ici à l'ICANN. Je crois que le premier commentaire tient à l'importance du monde académique au sein des communautés académiques dans leur monde, au sein de la société dans son ensemble. Il s'agit de cela ici. Mais deuxième commentaire important, c'est qu'il faut introduire les points de vue du monde académique ici à l'ICANN. Et nous sommes à un point charnière, à un moment charnière pour le faire. Que le monde académique puisse participer à l'ICANN implique que ce monde académique participe à d'autres structures des Nations Unies et autres. Donc, il est très important d'écouter leur point de vue parce que ce qui se produit et le rôle de l'ICANN au niveau mondial est particulièrement important. Donc, il est important que le monde académique fasse un effort pour participer à ce processus qui va être lancé, nous l'espérons, lors de la prochaine réunion au Brésil l'année prochaine. Également, faire connaître des questions qui tiennent au monde universitaire ici à l'ICANN. C'est la première réunion de l'ICANN à laquelle j'assiste, mais je sais que c'est quelque chose que les NCSC et Bill ont mentionné à plusieurs reprises, mais les universités ne sont pas neutres, mais il s'agit d'acteurs indépendants. Et je crois que les débats qu'on a eus sur les nouveaux programmes GTLD, par exemple, sur le fait de déconcentrer un petit peu le marché et d'amener les nouveaux GTLD dans les pays en développement, ça, le monde académique peut beaucoup contribuer à ce débat. Et les communautés dans leurs pays respectifs peuvent avoir un rôle à jouer également très important parce que dans l'espace universitaire, parce qu'ici on parle de faire émerger la nouvelle génération, il ne s'agit pas simplement de diffuser des connaissances mais de s'assurer que la société du savoir peut débattre la réglementation d'Internet, par exemple, et faire partie d'une organisation qui a aidé le gouvernement brésilien à façonner notre réglementation, nous a fait prendre conscience de l'importance d'être éclairé, d'avoir des connaissances de base sur la façon dont Internet marche et sur les principales organisations. Donc il faut un débat public où tout le monde participe, quel que soit leur lieu d'origine. Leur participation est importante. Il faut échanger nos connaissances et il faut que les gens soient davantage informés et éclairés pour participer. Également, échange d'expérience sur la façon dont nous avons introduit l'ICANN dans notre travail académique. Je dirais très brièvement qu'au FGV, nous enseignons un cours sur les droits de la propriété intellectuelle et un cours consacré à l'explication du fonctionnement du nom de domaine et sur la résolution des litiges par rapport au nom de domaine. Donc, on travaille sur les marques commerciales. Et donc, ça nous permet d'introduire la thématique ICANN. Pour la première fois, j'ai eu l'opportunité de parler du régime Internet lors d'un cours auquel j'ai participé. Et ça a été un cours très intéressant parce qu'on a parlé du fonctionnement de ce régime, du rôle du gouvernement. Parce que réellement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au niveau international parce que finalement, tout se résume à la souveraineté. Donc pour moi, ça a véritablement été très intéressant de débattre avec eux parce que très souvent, certains espaces qui ne semblent pas être disposés à être ouverts à cette discussion vous surprennent parce qu'on voit qu'il y a un changement d'état d'esprit. Donc pour répondre à votre question, je crois qu'il est possible d'inclure l'ICANN dans les questions qui sont liées à cela dans les universités. Il faut identifier les bons points d'entrée parce que ces débats peuvent s'avérer très complexes et difficiles. Donc pour nous, la résolution des litiges par rapport au nom de domaine et ce cours que l'on donne à l'université s'est avéré très utile. On parle également de la gouvernance Internet, de la nouvelle politique de gouvernance Internet, que ce soit par rapport à l'IPv6 ou DNSSEC. Mais il faut identifier ces points d'entrée pour attirer l'attention des étudiants et introduire des questions plus complexes, des aspects plus complexes. Donc le principal défi auquel je me suis trouvée confrontée, c'est de trouver les bons matériaux pour mes cours. Donc sur le cours sur l'UDRB, le texte de l'UDRB est très clair. Mais il y a beaucoup de détails, donc il a fallu que je passe en revue beaucoup de cas pour voir, pour m'assurer que mes étudiants comprenaient bien de quoi ils retournaient et s'il y avait bonne foi ou pas dans ces cas. Donc c'est quelque chose que nous aimerions partager avec d'autres. Et par rapport aux relations internationales, nous avons de bons matériaux de la part de l'ICANN avec ce manuel pour débutants pour éviter de tomber dans l'excès institutionnel. Peut-être faudrait-il créer quelque chose de plus clair et de plus simple. Peut-être qu'il serait bon d'indiquer sur Wiki les présentations ICANN qui sont maintenant disponibles. Nous avons un autre site. Nous avons une discussion très intéressante sur la plateforme hier. Il faut s'assurer que cette plateforme constitue un espace d'apprentissage, qu'elle rassemble plusieurs points de vue, pas uniquement le point de vue de l'organisation, également des matériaux critiques et présente les défis par rapport aux politiques développées par l'ICANN. Donc ça doit être un espace ouvert à tous. Peut-être faudrait-il établir également certaines ressources de coordination, certains mécanismes de coordination. On a le GigaNet. Dans notre IEGF régional, ça, il serait peut-être intéressant de développer ce type de plateforme. Il y a d'excellents documents dont on a parlé ici. Il serait bon que tout le monde participe, les utilise dans les cours qu'ils donnent et que on en débatte.
Je crois que c'est une question de coordination. Hein. Les supports existent. C'est une question de coordination et de diffusion et de distribution, comme très souvent c'est le cas dans d'autres domaines. Nous avons 10 minutes. Il nous reste Carlos et ensuite les commentaires de George Sadowski, qui est membre du conseil d'administration, et de Bill Grake, qui devait s'occuper également de la modération de la séance, mais il a eu d'autres choses à faire. Donc, il a presque perdu sa voix. Et puis, il y avait des questions aussi, une de Raymond. Alors, est-ce que Bill, vous voulez dire quelque chose maintenant? Maintenant? Dit Bill au micro. Bon, d'accord. Désolée, oui, j'étais censée être co-modérateur de cette séance, mais comme vous l'entendez, j'ai pratiquement perdu ma voix et maintenant je ne vais pas très bien physiquement. J'ai de la cortisone dans le sang et des anti-inflammatoires. Mais bon, je vais quand même vous faire quelques commentaires sur ma propre expérience. J'enseigne la gouvernance internationale sur les technologies de l'information depuis 25 ans dans des différentes universités aux États-Unis et nous intégrons des cours sur la gouvernance de l'Internet de manière plus spécifique au niveau du premier cycle et des deuxièmes cycles. Je travaille à Genève. J'ai été impliquée dans des groupes de travail sur la gouvernance de l'Internet et j'ai lancé le réseau sur la gouvernance de l'Internet qui est devenu une entreprise tout à fait utile qui a impliqué différentes personnes dans le monde entier, dans le domaine académique, qui nous a permis de nous mettre en lien, que ce soit par exemple des personnes qui sont en Ukraine, en Biélorussie, etc. Les gens se rencontrent. Ils discutent avec les collègues et ils partagent des choses qui sont très utiles. Nous sommes également très impliqués dans des écoles d'été. J'enseigne dans l'école d'Olga, l'école d'été d'Olga. Alors, je vais dire quelques petits points d'abord. Je crois que les cours de renforcement des compétences ont un rôle très important à journée et qu'ils sont très différents des cours universitaires. Donc, nous, dans l'espace IG, souvent, on parle de la gloire, des renforcements de capacités. Mais je crois qu'il y a une différence énorme en termes de qualité au niveau du renforcement des capacités et du système universitaire. Donc, ce sont deux choses complémentaires. Je crois qu'il faut que nous reconnaissions l'importance des universités, que nous la reconnaissions mieux. Et donc, je crois que ce qui est fait ici est très utile en ce sens. En ce qui me concerne et dans mon domaine, je sais qu'il n'y a pas de diplôme qui propose une palette de cours sur la gouvernance de l'Internet. Mais il y a des personnes dans le monde entier qui enseignent un cours, par exemple, ou qui enseignent un cours dans un domaine établi comme la propriété intellectuelle qui traite de la gouvernance sur l'Internet. Mais en termes de programme d'ensemble, il n'y a pas réellement de programme. Il y a Oxford qui essaye de mettre en place un diplôme de ce type. Mais le problème, c'est que moi, je viens des sciences politiques. Lorsque je dis à mes collègues dans la science politique, voilà ce que je fais, je leur montre mes recherches et les gens me disent, oui, mais cela ne contribue rien à la littérature. Et la littérature, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est les matériaux théoriques qu'ils lisent dans leurs revues. Donc, pour eux, peu importe les nouveaux programmes GTLD, leur complexité, les politiques extraordinaires et les conséquences qu'elles peuvent avoir dans le monde réel, etc., peu importe. La seule chose qui les intéresse, c'est est-ce que vous appliquez cette théorie? Et donc, si vous partez de cet état d'esprit, il est très difficile de convaincre vos collègues que, de fait, ceci représente un domaine spécifique qui a sa place parmi d'autres dans la topologie universitaire. Il y a des champs comme des champs de travail comme les études de genre qui finalement sont plus politiques, plutôt affectifs. Et donc, c'est très difficile de leur expliquer que la gouvernance de l'Internet, c'est un domaine multidisciplinaire lorsqu'on prend en considération les budgets, les ressources, etc. Et donc, je crois que ce problème va se poursuivre assez longtemps. Et donc, il nous faut soutenir ce qui existe déjà. La deuxième chose, c'est le problème de pédagogie, d'enseignement, dont on a déjà parlé. Je sais que de ma propre expérience, bien sûr, si vous enseignez 14 séances sur la gouvernance de l'Internet, si vous traitez de ce qui se passe au niveau des WSIS de l'ETF, bien sûr, vous allez avoir 4 séances sur ICANN, vous allez en avoir 1,5 sur les institutions d'ICANN, 2,5 sur les nouveaux GTLD, les réglementations, et voilà. Et puis, vous allez passer 20 minutes sur le WSIS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très difficile, en fait, de rentrer dans la profondeur, dans les détails des questions. J'étais à la réunion sur la motion OIG, ONIG, donc c'est très difficile. On pourrait tout en faire tout un cours, mais qui a le temps de le faire? Et bien sûr, les jeunes, 20 ans, 30 ans, à moins de se lancer dans une carrière dans ce domaine, cela représente beaucoup trop de choses. Donc il est très difficile de trouver le bon niveau d'information à fournir. Pour moi, j'ai vraiment des difficultés à trouver ce qu'il faut réellement travailler. Les articles universitaires que je trouve, par exemple sur la propriété intellectuelle, sont écrits dans les revues sur la propriété intellectuelle et pour les juristes. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà l'institution, voilà l'évolution et voilà ce que ça veut dire pour l'Internet et le monde. Ça, je ne le trouve pas. Et donc, et c'est mon dernier argument, j'y arrive. À mon avis, ce qu'on fait en ce moment, c'est utile, mais il nous faut trouver de meilleurs moyens d'avoir un accès commun au sujet d'ICANN. Il existe des choses. Je sais qu'il y a Roy Baeksti, qui est un collègue à moi, qui a un référentiel sur l'Internet, et sur la gouvernance de l'Internet. C'est très utile. Vous pouvez consulter son site web. Il s'occupe de NCC, donc mon unité constitutive pour nos documents. Il y a la Commission européenne avec le programme GAECO qui va également traiter de ce sujet. Mais il n'y a rien de très spécifique sur ICANN. Rien qui nous permette d'obtenir une présentation générale de 10 à 15 ans sur les programmes GTLD ou de manière très claire sur le WHOIS, sur le IRTP ou sur les registres ou sur le CCNSO, le travail du CCNSO. Ces supports n'existent pas. Donc, stimuler un débat, c'est très bien. Je pense qu'il faut discuter de la façon dont ICANN peut créer ses ressources pour que le reste du monde puisse y avoir accès. Donc, il faut un petit peu essayer de dissoudre cet obstacle. Et je crois que tous nous pouvons y contribuer. Merci beaucoup, Bill. Je suis désolée pour votre voix que vous avez quand même retrouvée un petit peu, pas totalement. Carlos, dernier membre du panel, merci de votre patience. Bienvenue.
Très brièvement, parce que déjà on a dépassé notre l'heure. Je travaille à l'Université de Cordoba. Ça fait 25 ans que je donne des cours d'économie à la fac de droit. Et depuis 10 ans, nous travaillons sur une matière facultative. Donc les élèves décident d'eux-mêmes de s'y inscrire ou pas avant de devenir avocat. Et on leur parle de la gouvernance Internet, de l'ICANN et de tous les défis que cela engendre, y compris dans le cadre juridique et dans le cadre économique. Je voulais vous faire part de deux concepts, deux idées forces que je veux vous mentionner, vous les soumettre pour que vous les analysiez. Un point de vue que j'ai rendu public lors de la réunion de Nairobi il y a quelques années et à la réunion du Costa Rica lorsque j'étais président de la participation et de l'engagement à la LAC. Et ce sont les deux idées fortes suivantes. Je crois que tous les outils en ligne sont excellents, mais l'élève a également besoin, c'est en tout cas mon point de vue, d'avoir un contact face à face avec celui qui va être son tuteur, son mentor ou son professeur. Parce que ce n'est qu'ainsi que l'élève va pouvoir s'engager réellement, connaître celui qui va lui faire cours et bien comprendre et savoir quelles sont les connaissances de cette personne. Et pour ce faire, il est important de travailler en faisant, c'est-à-dire « learning by doing », apprendre en faisant. Et très souvent, même en faisant cela, les choses sont difficiles. Et deuxième idée force que je voulais vous livrer, et je finirai là-dessus, c'est que je salue l'initiative, ça fait des années que j'y travaille, parce que la question temps sur ce type de thématique est importante. Sensibilisation, diffusion, pour que quelqu'un ait une connaissance là-dessus. Si cette personne a des connaissances, elle peut participer. Si elle participe, elle s'engage. Si elle s'engage, alors on est en train de créer de nouveaux leaders. Et si on a de nouveaux leaders, ce seront eux les formateurs de leaders futurs. Ça, c'est la ligne du temps qui me semble fondamentale. Et je crois que l'ICANN est en train de prendre conscience du fait que la sensibilisation, la communication, c'est essentiel. Et que pour faire un travail d'outreach, de sensibilisation, rien de mieux que les universités. Alors, commentaire, Georges, membre du conseil d'administration de l'ICANN. Alors, effectivement, je suis membre du conseil d'administration de l'ICANN.
Je pense que cette séance est une des plus prometteuses et une des plus intéressantes auxquelles j'ai pu participer. Je vais partout dans le monde pour les rencontres d'ICANN dans différentes régions. Et nous le faisons dans une grande partie parce que nous souhaitons la participation de tous à ICANN, de tous ceux qui sont intéressés. Et nous facilitons le travail en nous rapprochant d'eux. Et je crois que l'intérêt, c'est pour nous qui nous déplaçons, qui allons dans ces régions. Et par le biais de séances telles que celle-ci, nous tirons les leçons de ce qui se passe ici. Donc ICANN, comme vous le savez, dispose d'un nombre limité de mandats, de missions, donc dans le monde de l'Internet, la sécurité, la stabilité et la résilience, mais c'est une mission très importante. Et je crois que le type de choses dont on parle ici, la formation, la recherche et la production de réflexions positives en ce qui concerne les problèmes auxquels nous sommes confrontés, est extrêmement importante. Et vous pouvez nous aider, ainsi que nous à ICANN, ainsi que le reste des personnes concernées par la gouvernance de l'Internet, à partager des idées en développant des référentiels dont vous avez parlé, afin que nous ayons les supports nécessaires pour que l'on puisse enseigner, pour que les gens puissent enseigner leurs cours. Si effectivement l'ICANN est un point de focalisation adéquat pour ce type d'activité, eh bien c'est très bien. Faisons-en l'utilité la meilleure possible. J'aimerais remercier Olga et remercier tous les autres participants qui ont rendu cette séance extrêmement intéressante pour moi et pour tous les autres. Merci beaucoup, Georges, dit Olga au micro. Nous allons maintenant lire la question qui a été envoyée.
Est-ce que vous pensez que les questions définies par ICANN pour la spécialisation sont des questions passagères des NSSA qui ne représentent qu'une petite partie de la sécurité Internet et qu'il s'agit de quelque chose de transitoire? De même avec la gouvernance Internet, c'est à la mode pour l'instant, mais très rapidement, ça va passer de mode. C'est Luis Espinosa du Costa Rica qui posait la question. Bien, je vais les lire toutes. Et on verra ensuite ce qui se passe. Alors, nous allons demander aux participants à distance de bien vouloir envoyer leurs questions par mail pour les soumettre aux membres du panel. Il y a urgence sur les écoles d'été dans ma région. Comment faire que ces programmes soient plus massifs et en faire un master program? Pensez-vous que le rôle de l'Académie à l'ICANN pourrait consister à récupérer l'esprit de l'Internet au début? Actuellement, il y a des marchés secondaires par rapport aux noms de domaine et des CP qui n'ont pas d'intérêt dans la mise en œuvre des noms de domaine. Le rôle de l'Académie à l'ICANN, qui consiste à enseigner certaines technologies, voilà un commentaire de Luis Espinosa du Costa Rica. Et un commentaire de Michael Graham, il serait bon de créer un site où les ressources et les outils pédagogiques pourraient être postés et qu'il y ait un dialogue entre le monde académique. On l'a déjà dit. Merci à tous. Merci à ceux qui sont venus nous accompagner. On applaudit les membres du panel. Et merci à tous.